18h30, 14h. Pour cette nouvelle émission, rencontre avec, aujourd'hui, nous sommes avec Sophie Devey, présidente de l'association Cooking Rock. Bonjour.
Cooking Rock.
Cooking Rock.
Bonjour.
Avec Loïc, qui atteint de la maladie de la neurofibromatose.
Bonjour.
Et sa maman.
Bonjour.
Qui veut pas dire son prénom.
Véronique.
Véronique. Au fil de cette émission, nous allons parler de l'association Cooking Rock, de ce 9e festival des coccinelles qui se déroulera cette année, le 7 juillet, à partir de 19h, au stade du village de Fournasse dans le Gard. Mais surtout de la maladie de neurofibromatose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de l'association Cooking Rock. En quoi consiste exactement l'association ?
Alors c'est une association que nous avons créée il y a 6 ans maintenant, 6 ou 7 ans, autour de Théo, notre mascotte au départ. Hein ? Autour de Théo, notre mascotte, qui est mon neveu et qui a une neurofibromatose, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on parle de cette maladie parce que ben voilà, lui sa manifestation, c'est des troubles d'apprentissage, c'est de l'hyperactivité, donc les gens quand ils voyaient Théo, ils disaient c'est un gamin mal élevé, non, il est juste hyperactif, et du coup on s'est dit il faut qu'on parle de cette maladie, il faut qu'on la fasse connaître, et il faut qu'on parle de l'isolement des familles, et qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on s'est dit nous on veut pas faire du dramaturge, on veut pas faire pleurer dans les familles parce qu'on est des gens qui mordons la vie, et du coup on a dit Théo nous a dit mais nous on sait bien faire la fête, alors on a dit on va faire la fête. Donc du coup on s'est dit je vous expliquerai plus tard pourquoi coccinelle, mais Cooking Rock parce que on est plutôt des punchers, l'association est née comme ça.
Elle est née en quelle année exactement?
Ça c'est une très bonne question, elle est née en août 2011, donc ça va faire 7 ans cette année.
7 ans, 9 festivals en tout.
Ouais. Alors on a commencé un peu plus tôt parce qu'on a commencé sous l'égide de l'association nationale qui est l'association neurofibromatose et Recklinghausen. On a commencé en délégation pour cette association, puis on s'est rendu compte que pour des raisons logistiques et techniques, c'était plus simple d'avoir une petite configuration locale. Donc on a créé l'association Cooking Rock, mais qui est entièrement tournée et vouée à la réussite de l'association nationale, l'ANR.
Et c'est quoi l'ANR en fait exactement ?
Alors l'ANR c'est l'association neurofibromatose et Recklinghausen, donc qui lutte contre les différentes neurofibromatoses et qui a une représentation nationale, qui a 30 ans, qui est bien assise, qui a 1200 adhérents en France, même si au regard du nombre de malades qu'on estime entre 15 et 20 000 en France, ça fait pas beaucoup 1200, donc on se bat pour être nombreux, pour exister face aux laboratoires pharmaceutiques, pour exister pour la recherche et tout ça. Et l'ANR donc a cette assise nationale qui nous permet de financer de la recherche et d'avoir des projets de grande envergure.
Toujours par rapport à l'association, vous êtes combien en tout ?
Alors, à Cooking Rock, on est une 60aine d'adhérents, on est une 15aine de bénévoles très actifs, et puis on a la relève qui arrive avec Loïc notamment, et puis avec Théo, avec les frères et sœurs, et qui sont là, qui viennent à chaque manifestation, qui sont contents d'aider à la caisse, d'aider à monter, d'aider à démonter, et voilà. Alors le groupe grossit petit à petit, et puis on arrive quand même on arrive à être sur le festival des coccinelles, on est 80 bénévoles à peu près.
80 bénévoles, c'est pas très dur à gérer?
Ça va, on est rodés maintenant, il faut gérer la fête, parce que faut pas oublier qu'on est là pour faire la fête aussi, donc c'est ce qui est difficile à gérer dans le bénévolat, c'est qu'à la fois on veut être professionnel, on veut faire les choses bien, mais en même temps on veut pas se prendre la tête. Moi je suis pas patronne d'entreprise, je suis présidente d'association, mais en même temps il y a des responsabilités à avoir derrière, des responsabilités pénales, des responsabilités légales, et on est obligé d'avoir un cadre, mais ça se passe bien. De temps en temps on s'accroche un peu, mais... Véro, qui est administratrice depuis peu de l'association, peut le dire aussi.
Oui, ça se passe très bien. C'est un grand plaisir de faire partie de cette association. Ça nous a beaucoup aidé de se sentir moins seul, soutenu. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance au sein de l'association. Nos amis aussi se sont joints à nous aussi. Donc, oui, c'est très appréciable.
Et Loïc ?
C'est bien.
Il est un peu stressé avec le micro, en fait.
Oui.
Parlons toujours de l'association, vous êtes basé où exactement ?
On est alors le siège officiel est à Fournes, mais en fait on a des membres sur la commune d'Argiliers, sur Beaucaire, sur Tarascon, et puis on a aussi des membres du Vaucluse parce que Mathéo, mon neveu avec sa famille, habite le Thor dans le Vaucluse, donc on a aussi pas mal de copains qui viennent du Vaucluse et d'ailleurs on va essayer de lancer un peu des événements aussi dans le Vaucluse, d'abord parce que eux ça leur fait besoin de venir à chaque fois, donc nous on va y aller un peu aussi là-bas et puis on va essayer de faire connaître notre but, c'est de faire parler de la maladie, et le but principal de l'association, on en a encore discuté en réunion il y a pas longtemps parce qu'on se disait maintenant les sponsors c'est dur à trouver, c'est difficile, ça coûte de l'argent, etc. Et on se disait tant pis, on fait les choses quand même, parce que au-delà de collecter de l'argent pour faire la recherche, pour faire avancer la recherche ou pour financer des aides aux malades, ce qui est important pour nous, c'est de rompre l'isolement des familles. Donc à chaque événement, si on a une nouvelle famille qui découvre l'association et qui repart généralement en pleurant en disant voilà, oh ça y est, je suis plus seul, ben on estime qu'on a gagné.
Un petit mot plus par rapport à l'association, parce que vous faites là le festival, mais vous faites d'autres manifestations. Vous avez fait il y a pas longtemps un vide-grenier.
Ouais, on a fait un vide-grenier où c'était très sympa, parce que c'est ce qui caractérise un peu nos manifestations, c'est que qui est du monde ou qui est pas de monde, nous on s'éclate. Et puis c'est ce qui ressort de chaque manifestation. Par contre, c'est que les gens ont passé un bon moment. Donc ça c'est le principal. Et puis ce qui est important aussi, c'est que ben on voit notre Loïc qui au fil des manifestations s'épanouit. La première manifestation, il était tout seul dans son coin, et maintenant il danse derrière le bar quoi. Quand on fait une soirée d'ensemble, donc on fait quelques événements dans l'année. Alors, on essaye de pas en faire trop parce que on a tous nos vies et que c'est compliqué et que c'est. Mais on fait le festival des coccinelles, ça c'est notre grosse manifestation. Et puis on fait une soirée dansante au moins. On fait un loto en début d'année avec l'Assemblée générale. Et puis on a fait un vide-grenier. Voilà, on va essayer d'en faire. On faisait tout sur Fournes. On va essayer d'en faire un peu sur Argiliers aussi parce que c'est les racines de Loïc. Et puis voilà.
Parce qu'il y a aussi un peu de monde de l'association qui est un peu de partout.
Ouais. Et puis au festival aussi, ce qui nous tient à cœur, c'est de faire venir des familles de la France entière. Donc on a des gens qui viennent de Picardie, on a des gens qui viennent de l'Auvergne, de Paris, des familles qui viennent du Tarn. Et tous les gamins se retrouvent sur scène et dans mon jardin aussi, la veille du festival et le lendemain du festival. Et là, on ne sait pas ce qui se raconte entre eux, mais il y a des choses qui se passent et ils repartent, ils sont plus les mêmes. Donc c'est chouette.
Je vous remercie. On va faire une petite pause musicale en attendant de pouvoir reparler de la fameuse maladie.
Radio RG30.
RG30. Retour dans l'émission Rencontre avec Coxine Rock, l'association, et on va parler de la fameuse maladie neurofibromatose. Alors, c'est une maladie génétique. Combien y a-t-il de types de maladies et quelles sont leurs différences? Loïc, est-ce que tu peux répondre?
Il y en a.
Je t'aide à aller, Loïc.
Il y en a plusieurs.
Ouais. Non, mais c'est dur.
C'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Sophie.
Ouais, c'est un peu compliqué parce que on est encore dans la recherche et l'identification des différents types de neurofibromatose. Donc il y en a 4-5 qui sont bien identifiés, dont la neurofibromatose de type 1 ou maladie de Recklinghausen, qui est la plus répandue, qui touche une naissance sur 3000. Après, il y a la neurofibromatose de type 2. Alors, c'est pas le même chromosome. Hein. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc, je sais que c'est le chromosome 17 dans la neurofibromatose de type 1, mais la neurofibromatose de type 2, de mémoire, c'est la 22. C'est le chromosome 22, mais je vais...
Je ne sais pas non plus.
Vérifier. Voilà. On a des administratrices, mais voilà.
Voilà.
C'est 1 sur 40.
La 17, je savais, évidemment.
C'est 1 sur 35 000 à peu près. Alors, la prévalence évolue aussi parce que maintenant, grâce notamment à l'association qui a pu offrir un détecteur du génome, un séquenceur ADN, voilà le nom exact, on a pu aussi mettre en place le diagnostic préimplantatoire. Donc du coup, il y a moins de bébés qui naissent atteints d'une neurofibromatose. Alors après, moi, je me prononce pas du côté éthique, hein, mais ça fait que du coup, on passe de 1 à 40 000, de 1 à 35 000 à 1 à 40 000, ou de 1 à 3 000 à 1 à 4 000, 4 500. Donc plusieurs types de neurofibromatose, le syndrome de Léjus aussi, qui est moins grave dans les atteintes, une neurofibromatose segmentaire, une schwannomatose, enfin des atteintes qui sont très variables et très différentes selon le type de neurofibromatose qu'on a, et malheureusement une recherche qui est encore, bien qu'on en finance, on essaye d'en financer beaucoup et qui a il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent des solutions à la neurofibromatose. On en est encore loin des résultats.
Oui, qu'un petit mot ? Non, l'euro non plus. Un à rajouter ?
Non, ben pas plus à rajouter. C'est la plus répandue des maladies rares, mais voilà. Après, on est trop nombreux encore.
Par rapport aux symptômes, il y a des symptômes précis ou pas pour reconnaître la
Alors, le symptôme, c'est les taches café au lait. Ils sont au nombre de 7 à partir du moment où on décèle. Après, il y a des recherches justement qui sont faites au niveau génétique pour voir. Il y a un suivi dermato, un suivi ophtalmo. Enfin, il y a beaucoup de suivi parce que cette maladie peut atteindre beaucoup de. C'est très divers et du coup, il y a beaucoup de surveillance à effectuer.
Dans quel sens ?
Mais justement, des neurofibromes pour voir comment ils évoluent, si ça évolue, où est-ce qu'il y en a, comment ça peut bouger.
Loïc, toujours pas ? Le micro va te manger.
Il y a beaucoup de rendez-vous. Environ tous les 6 mois.
Et les rendez-vous, tu les fais où ?
Carrément à Nîmes.
On a la chance à Nîmes d'avoir récemment un neurologue pardon, qui est venu s'installer, qui a été nommé au CHU de Carrément à Nîmes et qui arrive de Caen et qui était à Caen coordonnateur du centre de compétences sur la neurofibromatose. Parce que sinon, en pédiatrie et tout ça, c'est Montpellier où ils sont un centre de compétences très à l'écoute, mais ça oblige quand même les familles à aller à Montpellier. Quoi. Ça veut dire des hospitalisations sur 2 ou 3 jours pour faire tous les examens. Et voilà, Véro parlait des taches café au lait. C'est un signe diagnostic de la maladie. Il y a 6 ou 7 signes qui permettent de détecter la maladie et les taches café au lait en sont un. C'est ce qui a permis notamment chez Théo, chez Loïc, je ne sais pas, mais chez Théo de dépister la maladie très tôt.
D'accord.
Oui, chez Loïc aussi, oui.
Alors attention que les auditeurs ne s'affolent pas. Hein. C'est au-delà de 6 taches café au lait, mais il faut qu'elle fasse une certaine taille, qu'elle soit. Et puis c'est pas le seul signe. Vous pouvez avoir 6 taches café au lait, mais ne pas avoir de neurofibromatose parce que ça ne suffit pas pour diagnostiquer la maladie. Donc prudence quand même avec tout ce qu'on peut vous dire. Ne vous affolez pas avec ça.
Alors là, vous m'avez dit qu'au niveau des symptômes, c'était par rapport à taches café au lait. Vous m'avez parlé de Nîmes. À la base, c'était Montpellier. À part Nîmes et Montpellier, il y a quoi comme endroit ? Il y a Marseille, non ?
Oui, il y a Marseille. Après, il y a Lyon, il y a Toulouse. Bordeaux, ils sont en train de créer un centre de compétences parce que jusqu'à présent, les malades n'avaient pas de centre de compétences à disposition. Mmh. Le problème des centres de compétences, c'est qu'ils ne sont pas financés, quoi. Donc, il y a le centre de référence à Paris qui a un financement, mais les centres de compétences en province n'ont pas forcément de financement. Donc, c'est un peu la galère pour les médecins de pouvoir assurer des consultations pluridisciplinaires, de pouvoir assurer les suivis des enfants et des adultes qui sont atteints et en quiétude, quoi, parce qu'une consultation neurofibromatose, ça ne dure pas 10 minutes. Donc, il faut pouvoir les financer derrière et ça ne rapporte pas. Donc, c'est compliqué.
Et la sécurité sociale ne rembourse rien ?
Ah bah si, mais par exemple pour vous donner un exemple concret, si vous avez pour la maladie, vous pouvez avoir des dizaines, des milliers de neurofibromes qui sont des petites tumeurs molles sur le corps. Vous pouvez les enlever avec des séances de laser. Séances de laser, il y a un laser à Créteil par exemple qui a été financé par l'association, c'est quand même ou en Martinique, parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens, enfin, les Antillais venaient faire des séances à Paris, à Mont-d'Or. Vous imaginez combien ça coûte à la Sécu un déplacement. Mais c'est l'association qui a payé le laser en Martinique pour que les malades n'aient plus à faire 12 000 km pour venir se faire soigner. Mais sauf que la Sécu, par exemple, la prise en charge de la séance laser pour un hôpital ne couvre pas les frais de la séance laser. Ouais. Donc les hôpitaux rechignent à mettre des séances laser. Ils vont mettre une demi-journée par semaine, alors que si c'était pris en charge correctement par la Sécu, eh ben, on aurait peut-être 3 jours et il n'y aurait pas un an d'attente pour avoir une séance de laser.
Bon. Je vois que vous réagissez avec les
yeux. Oui, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas plus fréquent parce qu'il y a certaines personnes en effet qui en ont beaucoup et ce serait bien en effet de pouvoir faire quelque chose.
Théo, non, toujours pas.
C'est Loïc, mais
oui. Non, oui, Loïc. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai Théo dans la tête, parce qu'en fait tout à l'heure j'ai passé un morceau de musique et c'est le mot Théo en fait. C'est pour ça qu'en fait j'ai le mot Théo en tête en fait, depuis tout à l'heure. Par rapport aux causes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les causes de la maladie ? Ce que ça peut faire ?
Ah bah c'est l'origine de la maladie, c'est génétique. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez transmis la maladie parce que vous êtes porteur de la maladie, soit vous n'êtes pas porteur et c'est une mutation spontanée, ce qu'on appelle. Donc c'est moi je j'aime pas employer le terme erreur génétique parce que c'est pas une erreur, c'est un accident génétique, on va dire. Et résultat, bah voilà, Loïc, je crois que c'est ça, non, toi?
C'est ça, oui.
T'es malheureusement tout seul et heureusement tout seul aussi.
Oui, c'est
sûr.
Je sais
pas comment tu le vis, toi.
C'est gênant.
D'être
c'est...
tout seul?
Non.
C'est quoi qui est gênant?
D'avoir la maladie sur soi.
Et par rapport à cette maladie, au niveau de la vie scolaire et de la vie courante, ça se passe comment?
Ça se passe bien. J'ai quelques difficultés.
Lesquelles les difficultés? Tu veux que je demande à maman de répondre?
Mais il avait des difficultés de concentration aussi, donc du coup il a eu une scolarité, il est allé au collège faire une sixième SECPA, il est allé en SECPA jusqu'à la troisième. Là il vient de faire un apprentissage, un CAP APR, agent polyvalent de restauration. Donc là je pense qu'on n'a pas les résultats encore, mais je suis positive, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas son CAP. Là il aimerait faire un CAP en alternance en pâtisserie. Donc
voilà. Tu t'appelles à faire Loïc aussi d'ailleurs, je profite du micro.
Oui, profite.
Ah, si vous connaissez des entreprises qui cherchent un apprenti, dites-le moi s'il vous plaît, parce que là je suis en train de chercher.
Un apprenti en quoi?
En pâtisserie.
Sur quel secteur?
Romoulin, Nîmes, Uzès.
Tout ce qui touche un peu autour de Romoulin, à peu près, combien de kilomètres à peu près? Jusqu'à Tarascon ou pas?
Même Avignon.
Avignon.
Oui.
Loïc, c'est un courageux, donc comme tous les gamins qui sont touchés par la maladie, c'est des guerriers, quoi. Donc il est à Argilier, il a pas le permis, mais c'est pas grave, il va aller là. Il nous disait tout à l'heure qu'il pouvait aller à Tarascon rencontrer un employeur. Bah il va prendre tous les bus possibles, mais il va y arriver parce que c'est un guerrier, quoi. Pas vrai, Loïc?
Oui.
Et là, il est en apprentissage aussi pour essayer d'avoir le permis. Donc après, comme ça, il sera aussi indépendant pour pouvoir se gérer justement plus facilement.
Et encore plus autonome.
S'assumer, oui. Complètement.
Je te remercie. On va faire une petite pause, touchement avec le fameux titre que j'ai en tête depuis tout à l'heure, qui s'appelle Théo. Là, on se retrouve juste après ce petit morceau, Théo, chanté par Ours.
Sur ton épaule, la vie est belle, pas toujours drôle.
Des décibels, une farandole,
la vie est belle quand on s'épaule. Fado, Rémi, guitare et trombone.
Radio RG30, la web radio du Pont du Gard. RG30.
Retour toujours dans l'émission Rencontre avec. Alors Loïc, tout à l'heure tu as dit une annonce, si tu peux le redire en cas où.
Que je recherche un apprentissage en pâtisserie. Je recherche un patron qui voudrait bien me prendre dans les alentours de Nîmes, Uzès, Romoulin, voire jusqu'à Avignon.
Par rapport à cette annonce, si un entrepreneur ou un pâtissier ou un boulanger soit intéressé, comment il fait pour te contacter ?
Sur la page Facebook de l'association ou sur la page Facebook de la radio.
Oui, ça c'est également. Soit sur la page Facebook, soit directement sur le site de la radio, radio-rg30.fr. Toutes les coordonnées sont posées. Alors maintenant, on va reparler un peu plus de cette fameuse maladie. Y a-t-il des attentions particulières si on prend une personne qui a une maladie, mais qui n'a rien à voir avec ça? Par exemple, le sida ou...
C'est pas contagieux, on peut le transmettre avec ses gènes, c'est-à-dire en ayant un enfant. Et encore que maintenant, on peut faire en sorte de. Même si on est atteint, on peut avoir des enfants sains, puisque. Enfin, ça. Pas malade, puisque il y a le dépistage préimplantatoire, le dépistage prénatal. Donc après, la question est toujours pour la... Le problème de cette maladie, c'est que les atteintes sont très aléatoires et elles sont imprévisibles. Donc on ne peut pas savoir à l'avance si l'atteinte sera grave ou pas grave. Loïc vous a expliqué tout à l'heure que c'était pas facile pour lui, etc. Théo, lui, il a été opéré 2 fois du cerveau. Il est passé proche. Et puis il y a malheureusement des gamins qui sont plus là pour en parler. Mais ça, vous pouvez pas le savoir. Vous allez savoir qu'il y a une neurofibromatose parce que vous avez vu génétiquement qu'il y a une neurofibromatose, mais vous ne pouvez pas savoir quelle sera l'atteinte physique exacte. Donc ça complique beaucoup les choses et ça complique la décision de transmettre, de prendre le risque de transmettre la maladie ou pas.
Oui, parce que quand on ne le sait pas, ça arrive comme ça, sans le savoir, alors que si on le sait, oui, je pense que la question peut être différente, oui.
Véro pourra peut-être mieux vous en parler, mais moi je sais que ma sœur, qui n'est pas porteuse de la maladie, culpabilise quand même parce
oui,
que son fils est malade.
Oui.
Donc j'imagine que quand on est malade et qu'on l'a transmis, et c'est le cas pour certains de nos amis, il y a même des mamans et des papas qui ont découvert la maladie quand on l'a diagnostiquée chez leur enfant, qui n'avaient pas grand-chose, et puis leur enfant est beaucoup plus lourdement atteint. C'est le cas de nos potes, quoi. C'est difficile.
C'est pour ça que quand je vous posais la question par rapport aux attentions particulières, j'ai pris l'exemple du sida, c'est pour bien préciser que ce n'est pas transmissible, que c'est génétique.
C'est pas contagieux, oui.
Ça peut arriver à n'importe qui, on ne peut pas savoir.
C'est important de le préciser, parce que c'est une maladie où il y a parfois, et même souvent, des atteintes physiques, où ça se voit, quand vous avez... des milliers de neurofibromes sur le corps. Des neurofibromes, ça fait des petites boules, ça fait comme des verrues, si vous voulez, sauf qu'elles sont molles. Quand vous avez des milliers de neurofibromes sur le corps et que vous allez à la piscine, je pense notamment à un copain qui est venu il y a 2 ans au festival, et quand il est allé à la piscine municipale ou du camping, je sais plus où il était, à quel camping il était, ça a été compliqué. Et du coup, son papa est allé prévenir les gens du camping en disant « c'est pas contagieux, vous affolez pas, quoi ». Donc, c'est bien de le préciser. Merci, Jérôme.
Loïc, un petit mot à rajouter par rapport à ça ?
Non, c'est bon.
Et c'est vrai que lui, il a un gros neurofibrome au niveau de la cuisse. Et c'est vrai que c'est bien maintenant, les shorts de bain qui sont un peu longs, de façon à ce que ça cache aussi. Et du coup, il arrive quand même, en effet, à aller à la piscine, aller à la plage. Voilà, il arrive à cacher un petit peu.
Oui.
À vivre une vie normale, oui.
Et toujours par rapport aux attentions particulières, par rapport à la maman
Non, que j'ai posé la question justement quand on a eu le désir d'avoir un deuxième enfant, justement, savoir quels étaient les risques. Et on m'a dit, justement, c'était la mutation d'un gène, donc... Il n'y aurait pas forcément de raison que le deuxième ou un autre enfant l'ait. Après, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai que nous, on n'a que Loïc qui a cette maladie-là.
Puis pour rebondir là-dessus, il y a des études en ce moment sur des gènes, ce qu'on appelle les gènes modificateurs, donc des gènes qui interviendraient en dehors du chromosome 17, etc., en dehors du gène neurofibromatose, qui interviendrait sur la maladie. Et là aussi, il faut, ça avance bien là-dessus, mais il faut des financements, quoi. Il n'y a pas d'autre solution, c'est le nerf de la guerre, quoi. Les chercheurs, pour qu'ils avancent, il faut financer, quoi.
Il n'y a pas d'appel aux dons comme le Téléthon, par exemple.
Bah, malheureusement, nous ne bénéficions pas du Téléthon. C'est parce que quoi qu'on en dise, moi je vais pas taper sur le Téléthon parce qu'ils font du bon boulot et que le seul bémol que j'apporterai, c'est que quand ils disent qu'ils luttent contre toutes les maladies rares, c'est pas vrai. Ils luttent essentiellement contre les myopathies. C'est d'ailleurs la raison d'existence de l'AFM, hein, c'est l'Association française contre les myopathies, pas contre les neurofibromatoses. Donc nous on n'a pas d'argent, on ne touche pas d'argent du Téléthon, même si, bien sûr, il y a quelques recherches sur le génome qui ont fait avancer les choses, bien évidemment, qui ont fait avancer les choses pour plein de maladies. Mais quand on a, nous, un appel d'offres, un appel d'un chercheur pour financer un projet où il y en a pour 100 000 euros, ben nous, 100 000 euros, c'est une année de financement de recherche. Vous voyez, à l'échelle du Téléthon, ce qui, sur 80 millions d'euros par an, nos 100 000 euros, mais c'est pas grave, on est fiers de ça et on est fiers de faire avancer les choses. Mais c'est sûr que si nous on avait 80 millions d'euros, on aurait sûrement fait avancer la recherche sur la neurofibromatose, parce que on recherche dans plein de pistes. On sait que la thérapie génique ne fonctionnera jamais sur la neurofibromatose. Tous les généticiens qui recherchent sur la neurofibromatose pourront vous le dire. La thérapie génique, ce n'est pas une solution pour la neurofibromatose, parce que c'est un gène long, parce qu'il y a plein de raisons, parce que la protéine qui est émise, la protéine est émise, donc le gène fonctionne, c'est la protéine qui est inefficace. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on sait que nous, les recherches du Téléthon, on n'en bénéficie pas. Voilà. Donc on fait avec nos petits bras.
Voilà. Mais du coup, des amis sachant qu'on ne bénéficie pas du Téléthon, justement, font des dons directement à l'ANR.
Comment faire un don ?
En allant sur le site de l'ANR directement.
Sur le site de l'ANR ou sur le site de CoxinRock, puisque CoxinRock est aussi reconnu fiscalement, donc peut vous faire un reçu fiscal pour une déduction de 66%. Après, nous, de toute façon, que ce soit l'ANR ou CoxinRock, l'argent va au même endroit. Il va à la recherche et depuis deux ans maintenant, il va aussi à soutenir les malades, d'aller faire se rencontrer, notamment on organise un week-end qu'on a appelé Ribambelle, du nom d'une association d'Aramon qui nous a fait bénéficier du boni de dissolution et grâce à ce boni de dissolution qui était conditionné, elle voulait bien nous le donner à condition qu'on organise un week-end ludique pour les enfants malades, ce qu'on a fait l'année dernière. Il y a 19 familles qui sont parties au Puy du Fou. Loïc, tu y étais d'ailleurs.
Oui.
Raconte.
C'était comment?
C'était bien, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient la maladie.
Oui. T'as fait quoi là-bas? T'as vu quoi?
Et on est allé au Puy du Fou.
Parce que moi, j'ai jamais été. Il y a quoi là-bas?
Des spectacles.
Mmh. Ça a duré combien de temps le voyage?
3 jours.
3 jours? C'était pas trop dur?
Non, ça a été.
Ça t'a plu?
Oui.
Part de l'avion.
T'as pris l'avion?
Oui, on est allé en avion.
C'est si loin que ça? Pour prendre l'avion?
Oui.
C'est dur de faire parler quand même.
Oui.
Charge des petites questions pour faire parler.
Oui, c'est loin, un avion, on a mis
une heure.
Une heure. Et tu retourneras?
J'aimerais bien.
Alors, il ne retournera pas avec l'association parce que comme Loïc va avoir 18 ans le mois prochain,
oui,
il sort des enfants éligibles parce que c'est plus un enfant maintenant, donc
Oui.
Ça reste un guerrier, mais c'est un guerrier grand maintenant.
Mais bon, on a été très heureux d'y participer. C'est vrai que c'était l'occasion de se rencontrer avec d'autres familles, de voir malheureusement en effet d'autres malades plus atteints, moins atteints, mais au moins c'était l'occasion de tous se retrouver, et même en tant que parents, c'était bien de se retrouver entre parents aussi.
Je crois savoir aussi que les enfants, ils ont bien fait les fous aussi.
Ça, j'y étais pas, je peux pas vous le dire.
Et donc, pour enfin, on en organise un autre face au succès de ce week-end qui était une première pour l'association. On a décidé d'en organiser un autre en 2019. Donc là, cette fois, ils iront tous au ski. Enfin, s'il y a de la neige, mais il s'est prévu en mars 2019. Donc là, il y a 26 familles qui vont partir au ski.
Vu les changements climatiques, il y a des chances.
Normalement, il y aura de la neige. Mais s'il n'y a pas de neige, c'est pas grave, parce qu'on fera autre chose et ce sera bien quand même. Mais voilà, donc tout ça pour dire aussi que les gens Des fois, on leur parle de la recherche, de donner pour la recherche, c'est vague, c'est on ne sait pas à quoi sert son argent. S'ils veulent donner pour le week-end, il n'y a pas de souci, il suffit qu'ils aillent sur le site www.anrfrance.fr et là, ils ont le choix, ils peuvent donner pour la recherche ou pour le week-end Ribambelle. Et s'ils donnent pour le week-end Ribambelle, ben, ils verront les photos des gamins à la fin, et là, c'est du concret, quoi, parce que quand vous voyez les trognes des, oui, des gamins avec leur sourire... Ça récompense les 20 balles qu'on peut mettre sur le site.
Ça permet de la faire un peu sortir aussi, de changer du quotidien.
Ouais, puis surtout, moi je n'y suis pas allée puisque j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant d'atteint, mais parce que j'ai pas d'enfant du tout. mais c'est eux qui peuvent en parler le mieux, mais je ne sais pas ce qu'ils ont tiré de ce
c'était
week-end.
C'était une très belle expérience, oui, c'était vraiment super.
Parce que même les adultes, les familles, c'était... Oui.
Par rapport à l'association, on peut également adhérer ou...
Alors, on peut adhérer... alors, la cotisation à Coxine Rock, c'est 10 euros par an. Mmh. On veut que ça reste... alors, pour nous, à l'association, on a choisi que les gens qui viennent être bénévoles soient adhérents pour des questions d'assurance et des questions de juridique. C'est plus simple pour nous. Puis c'est 10 euros, donc c'est pour ça qu'on a laissé une cotisation basse. Mais après, on peut nous aider de toutes les sortes, quoi, de toutes les manières. On peut, on peut être animateur radio et puis nous offrir une petite fenêtre comme ça, une grande fenêtre même sur la radio. On peut faire un don aussi, quel que soit le don, ça peut être 5 euros, 10 euros, 1000 euros, on les prend tous. Et puis on peut venir le jour J, prêter ses bras, on peut participer aux manifestations sans être adhérent, sans faire un don. On vient s'amuser avec nous à la soirée dansante, ça coûte 20 euros.
On vient boire un coup, on passe un bon moment et voilà, ça fait du bien à l'association et à ceux qui organisent.
Et puis vous voyez Loïc en train de danser derrière le bar et il est beaucoup plus prolixe que derrière le micro.
J'imagine. Tout à l'heure, on a parlé un peu de l'école, comment ça se passait et tout. Par rapport aux enfants qui sont touchés par cette maladie, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ? Ou est-ce que c'est encadré ou pas encadré ?
Je pense qu'ils peuvent avoir une AVS qui pourrait justement les aider pour prendre les notes, pour prendre les cours, pour les aider après aussi à revoir les leçons, à faire les devoirs et tout ça, à prendre bien les notes. Parce que c'est vrai que le problème de manque de concentration, si en effet ils ne sont pas concentrés en cours, après c'est compliqué pour apprendre, pour retenir surtout.
Oui, puis le problème, encore une fois, le problème de la neurofibromatose, c'est que ça peut aller, l'atteinte est vraiment, la gravité de l'atteinte est vraiment très variée. Loïc, comme c'est un guerrier et que l'atteinte était ce qu'elle est, il a réussi, là il arrive au CAP, il va, grâce à la radio, il va trouver un employeur, donc ça va le faire. Il y a d'autres gamins, ils sont incapables d'aller à l'école parce que c'est pas dans leur capacité, parce qu'ils peuvent pas se concentrer, parce qu'ils arrivent pas à acquérir la lecture, parce qu'ils arrivent pas à acquérir l'écriture. Donc ça, il faut le dépister. Et plus on le dépiste tôt, plus la prise en charge sera meilleure, parce que ça sert à rien de maintenir. Nous, c'est un peu un combat aussi avec ma sœur Flo là-dessus, parce que la fameuse loi de 2005 où tous les gamins doivent aller à l'école, mais c'est une connerie monumentale, parce que y a plein de gamins qui sont pas capables d'aller à l'école. Et ces gamins, si on les maintient à l'école, ils y arrivent pas. Théo, il a eu la chance d'avoir une mère qui s'est battue pour qu'il ne soit pas maintenu en milieu scolaire classique, ordinaire. Et résultat, Théo, il est allé en institution. Mais là, Théo, maintenant, il intègre un groupe de travail. Il va apprendre à travailler et il a un avenir. S'il était resté, parce que lui, il a été orienté dès la fin de la maternelle, s'il était resté à faire dès le CEP en échec, de toute façon, il serait sûrement sans solution aujourd'hui, parce qu'il a eu 16 ans il y a quelques jours et que à partir de 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. Il serait à la maison avec maman et puis qu'est-ce qu'on fait de lui, quoi. Or là, il a un avenir. Donc vouloir maintenir à tout prix, et ça, il y a encore eu une annonce de la secrétaire d'État au handicap il y a quelques jours là-dessus, de vouloir dire « Ah mais non, il faut pas faire des institutions, il faut maintenir tous les gamins à l'école. » Non, madame, il faut se battre pour que les institutions soient adaptées aux gamins et pas que l'école soit adaptée aux gamins, parce qu'elle ne le sera jamais. Il y a trop de gamins dans les écoles. C'est pas possible d'adapter à tous les handicaps. Mais pour ça, il faut mettre un peu d'argent, parce qu'une institution, ça coûte plus cher que l'école. Et pour ça, il faut aussi... Et pour les gamins qui peuvent aller à l'école et pour qu'ils s'en sortent plus facilement que le parcours qui a été difficile pour Loïc, il faut qu'il y ait des AVS, mais des vrais AVS, c'est-à-dire des gens qui soient formés pour, qui ne soient pas en contrat précaire à 15 heures par semaine. Et ça, c'est pareil. C'est une volonté politique qui, pour l'instant... Moi, j'essaye de pas faire de politique, mais c'est difficile des fois.
Il y a pas de souci.
Non, mais je veux dire, c'est difficile de. C'est pas pour taper sur un président ou l'autre. En l'occurrence, c'est celui qui est en exercice, mais on voit rien. On voit rien venir. On voit pas. Soi-disant, il devait y avoir des AVS pour chaque gamin. Il y en a toujours pas. Ou alors, c'est des gens et c'est pas contre eux, mais ils sont pas formés. Ils sont au chômage. C'est bien, on leur donne ça pour travailler, mais si vous savez pas ce qu'il faut faire, ça sert à rien. Et le gamin, il est comme ça à l'école et il attend la fin de la journée. C'est pas tolérable quand vous voyez qu'il y a un autre copain de Loïc, Théo et tout ça, Aurélien. Il a 17 ans, il est chez lui et il commence à progresser parce qu'il a eu une prise en charge du CESAD. Je vais pas vous détailler les acronymes, mais il a mis 5 ans à l'avoir. S'il avait eu à 12 ans plutôt qu'à 17 ans, il n'en serait peut-être pas là. Il serait peut-être au-dessus. Enfin, il aurait peut-être d'autres possibilités que celles qu'il a maintenant. Et pourtant, il se bagarre et sa mère, elle se bagarre aussi. Mais c'est compliqué, quoi.
Oui, c'est compliqué.
Oui, depuis tout à l'heure, je te vois rien dire. Tu dis pas un mot. Alors, on me dit que t'es un guerrier, mais je vois pas trop un guerrier dans le micro. C'était comment quand t'étais à l'école?
C'était un peu. Ça allait vu que j'étais en SECPA. Les cours, c'était adapté à nous. Parce que si j'aurais été en général, je pense que ça aurait été plus compliqué.
Si tu aurais voulu faire une voie générale normale, tout à l'heure on a parlé des AVS, par exemple, pour aider, est-ce que ça t'aurait plu d'avoir une personne comme ça pour t'aider à essayer à faire une voie générale? Par exemple, pour être avocat ou.
Mais il s'en fout d'être avocat, il veut être pâtissier. Oui.
C'est fait espèce pour le laisser pour qu'il revienne.
Oui, qui nous fait des galettes des rois, vous n'allez pas lui faire des plaidoiries. Non, il nous fait des super cookies pour le loto, il nous fait des crêpes, il nous fait tout ça. On n'a pas besoin d'un juriste.
Oui.
Pas vrai, Louis?
Oui.
Le principal, c'est qu'il trouve un travail qui lui plaise et qu'il ait envie de faire ce qu'il veut après. Tout va bien.
Mais c'est difficile après coup de se rendre compte de ce qui nous aurait manqué. C'est un vrai combat pour les mamans et pour les papas, parce qu'ils se disent, on voit bien qu'il est en échec, mais qu'est-ce qu'il lui faut, quoi? Et c'est là où l'association intervient aussi, parce qu'on a des références scolarité, par exemple, c'est Flo, donc c'est pas difficile d'en parler. Les parents appellent et elle les aide, elle les oriente, elle leur dit prenez rendez-vous chez un neuropédiatre pour un bilan neuropsy, prenez rendez-vous à la MDPH, demandez de l'aide, quoi. Mais quand on vous dit demander de l'aide, quand vous êtes seul confronté à ça avec 3 gamins ou 2 gamins et que vous n'avez pas les armes et que vous n'avez pas les connaissances et les compétences, parce que moi je serais incapable de vous dire qu'il faut à quelle porte il faut taper.
Nous, je sais que ça a été compliqué parce que justement on voyait bien qu'il avait des difficultés. Et c'est pareil, c'est aussi pas évident de reconnaître que son enfant, entre guillemets, ne fera pas le cursus classique, qu'il sera obligé d'être orienté justement vers autre chose. Ça aussi, en tant que parent, évidemment, on imagine le mieux pour son enfant et c'est compliqué de se rendre compte qu'il ne fera pas, en effet, il ne sera pas avocat ou il ne sera pas médecin ou il ne sera pas. Voilà. Après, le principal, c'est que. Il trouve un objectif qui lui plaise et qu'il a envie de faire ce qu'il a envie. Et voilà, après, on l'aide justement à aller dans ce choix-là, dans ce qu'il peut, dans ses possibilités de faire.
C'est ce que tu dis, c'est très juste parce que c'est ce que ma sœur me dit aussi à propos de Théo. La vie, elle est faite de plein de deuils. Il fera pas ça, il fera pas ci, il a appris qu'il sera pas capable de conduire. Mais elle est pleine de grandes victoires aussi. Et ça, c'est énorme, quoi, parce que c'est le plus difficile à gérer aussi pour les parents, quoi. Enfin,
moi, mais je sais que pour nous, ça a été difficile, en effet, c'est renoncer à des choses. Après, on n'a aucun regret par rapport à Loïc, il est très heureux, l'association l'a beaucoup aidé aussi, tout va très bien. Mais c'est vrai que malgré tout.
Puis Loïc, il sera un pâtissier, futur président de Coquine Rock.
Toujours, Véro, si l'association n'était pas là, ça se passerait comment?
Alors au début, nous, on n'était pas justement au niveau de l'association. Et c'est vrai que quand on a su qu'il y avait justement l'association, on a voulu y aller. J'avais besoin, moi, en tant que maman, de rencontrer d'autres personnes. Alors Loïc, au début, ne voulait pas du tout entendre parler d'autres personnes atteintes comme lui. Mais malgré tout, quand je voyais, je me rappelle, j'avais vu justement des gens de la famille de Théo. Et malgré tout, Loïc était à côté de moi. Et je pense que quelque part, il entendait les questions que je posais. On avait des réponses. Et je pense que oui, quelque part, ça a fait, après ça a mûri dans son esprit. Après, moi j'ai voulu en effet m'investir au niveau de l'association, et en fait c'est génial parce que tout le monde m'a suivi finalement. Alors qu'au début j'étais vraiment la seule à vouloir, à avoir besoin justement de rencontrer d'autres enfants, d'autres parents qui avaient vécu les mêmes situations que nous. Et en fait, du coup c'est génial parce que Loïc avec ses frères, mon mari, enfin du coup on s'est tous vraiment investis et... vraiment, ça nous a beaucoup apporté. Quand on a vu le changement de Loïc, il a été beaucoup valorisé, mis en valeur. Il a été, voilà, et du coup, il s'est beaucoup ouvert, il a beaucoup changé. Et c'est vrai que oui, c'est vraiment super, quoi.
C'est un moyen de ne pas être seul, en fait.
Oui, oui, oui.
Ils sont tellement investis que maintenant, Véro est administratrice de Coxine Rock, l'association locale. Et Sébastien, son mari et papa de Loïc, il est administrateur de l'association nationale. Donc, c'est plus que de l'investissement. Et puis les garçons, les trois fils, ils sont à toutes les manifs. Et puis, ils y vont, quoi. Et puis, notre Loïc, je vous dis, la dernière soirée dansante, je l'ai surpris en train de danser comme un fou derrière la buvette, quoi. Donc c'est génial. C'est au-delà de l'argent qu'on peut collecter, même si ça vous empêche pas de donner, hein, mais au-delà de l'argent qu'on peut collecter, tout ça c'est des victoires qui sont primordiales pour nous, et c'est notre principal objectif, quoi.
Oui, toujours, moi, ces manifestations, à la base vous les faites pour collecter parce qu'il n'y a pas assez de dons, en fait.
À la base on les fait pas pour collecter, justement, on les fait pour ça, pour voir des Loïc danser, pour voir un Théo sur scène qui dit à la fin je vous signerai des dédicaces, il avait 8 ans. Et à la fin du festival, le petit bonhomme à minuit, là, il dit « Ne partez pas sans que je vous ai signé une dédicace et je vous la fais gratuite !» Mais on fait le festival pour ça, quoi. Et on fait nos manifestations pour ça. Après, si on a la chance d'avoir des sponsors, d'avoir du monde qui vient, d'avoir... tant mieux si on gagne de l'argent. Mais au départ, l'association, nous, en local, en tout cas, on le fait pas pour ça. Et il se trouve que depuis 7 ans que l'association existe, à chaque fois, on a gagné de l'argent. Même si des fois, on a eu peur parce que le jour du festival, il se met à pleuvoir, parce que c'est un gros engagement financier aussi. On en parlera plus tard, mais toutes ces manifestations, il faut les financer. Et c'est de plus en plus difficile de trouver des sponsors qui veuillent bien nous aider avec de l'argent. Parce que des gens qui veulent nous aider, il y en a plein, mais à un moment donné, il faut quand même payer, quoi. Donc, à un moment donné, il faut de l'argent. Mais on ne le fait pas pour ça. Au vide-grenier, par exemple, on n'a pas eu énormément de monde, mais on a réussi à gagner de l'argent quand même, parce qu'on a allumé une buvette avec des artistes qui sont venus jouer, avec une radio qui est venue nous aider, qui est venue nous sauver le concert. Mais ce qu'on va retenir, c'est ça. Mais ce qu'on va retenir aussi, c'est qu'il y a une famille qui est venue de Sommières, qui ne nous connaissait pas, qui a découvert l'association et qui est repartie en disant « Qu'est-ce que ça fait du bien, quoi ?» Donc ça, c'est ça, nos victoires à nous, c'est ça.
De connaître la situation et de pouvoir rassembler un peu de personnes qui ne sont pas au courant.
Et puis de pouvoir aider les familles à passer
le cap,
quoi. Loïc, quand il a passé le cap, voilà, maintenant, ça y est, il s'envole, quoi. Et ça fait plaisir à voir.
En plus, là, il y a un petit brin de vent.
C'est ça. Il n'est pas épais, en plus.
Et l'évolution par rapport à la maladie, ça peut s'aggraver ou pas ?
Oui, ça peut s'aggraver. Oui. Il y a toujours, justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'examens. Ils passent à peu près 2 IRM par an. Ça peut évoluer, justement, aussi en ce sens. Voilà, beaucoup de surveillance. Parce que, en effet, on sait que ça peut s'aggraver et que l'avantage, c'est que, justement, par rapport à tout le suivi, c'est que s'il y a quelque chose aussi, je me dis, ce sera pris à temps, et s'il faut enlever des tumeurs, ça pourra être fait. Voilà. Donc, c'est l'important de tout le suivi.
C'est impossible de savoir à l'avance comment ça va évoluer.
On peut pas savoir.
Je suis pas touchée directement, même si c'est quelqu'un de très proche, c'est impossible de prédire ce qui va se passer demain. Pour Loïc, pour Théo, pour Lilou, c'est impossible de le dire. Donc, c'est aussi un leitmotiv de l'association, c'est de dire aux médecins généralistes aussi, bon sang, mais ne dites pas que c'est pas une maladie grave. Enfin, il y a 15 jours, 3 semaines, l'ancien trésorier de l'association est décédé 3 mois après son fils, à qui il avait transmis la maladie. Donc, on peut pas prendre ça à la légère. Même s'il y a, y a, y a, Il y a des malades qui ont 70 ans et qui mourront peut-être pas des conséquences de la maladie, mais il n'empêche qu'on peut pas le laisser au hasard, quoi. Et il faut que les médecins, il faut que, d'ailleurs, s'il y a des médecins qui nous écoutent et qui veulent être destinataires de la revue qu'on édite tous les 3 mois avec l'avancée de la recherche et de la prise en charge, qu'ils aillent sur www.anrfrance.fr et ils nous laissent leurs coordonnées. On leur enverra gracieusement tous les trimestres la revue de l'association et qu'ils viennent à nous journée annuelle aussi qu'on organise pour informer sur la prise en charge de la maladie. C'est primordial que les malades soient suivis, quel que soit leur âge, il faut qu'ils soient suivis, quoi. Parce que personne n'est capable de dire ce qui arrivera demain.
Et heureusement, d'un côté qu'on ne sait pas, c'est non ça. Plus, voilà. C'est j'ai vrai. Pas envie de savoir de quoi demain est fait. Pour
moi
le moment,
plus, hein.
Voilà, tout va bien. Et...
Ni pour les uns, ni pour les autres.
Oui,
d'ailleurs, qu'on soit malade ou pas,
ouais.
On n'a pas forcément envie de savoir.
Non, c'est sûr.
Parce que la maladie, en fait, elle touche la personne, mais la famille autour. Ouais.
Ben oui, complètement.
Moralement.
Oui.
Bah, toute la famille est impactée, parce qu'il y a aussi un rythme de vie qui fait que. Il y a la maman ou le papa qui s'en va 3 jours à l'hosto avec le gamin touché. Donc, il y a les frères et sœurs qui restent. Comme disait Véro, le deuil de tout ce qu'on doit oublier. Et puis, il y a les petits frères, les petites sœurs qui sont jaloux aussi parce que.
Eh oui, maman, elle est toujours avec Loïc. Voilà.
Et puis il y a aussi la culpabilité des frères et sœurs, on n'en parle pas, mais moi, le petit frère de Théo un jour m'a dit, mais tu comprends, je préférerais tellement que ce soit moi qui ai la maladie et pas mon frère. C'est lourd pour lui.
Oui.
C'est pour ça aussi que le week-end qu'on fait, on n'emmène pas que les enfants malades. Il y a des associations qui font ça et elles font un très bon boulot, notamment l'association Rêve, etc., qui réalise des rêves de gamins, mais ils y vont tout seuls. Nous, on a choisi de faire un week-end pour les enfants, avec leurs parents et avec leur fratrie. Parce qu'ils vivent la maladie tous ensemble, bah ils vivront les moments heureux aussi tous ensemble, quoi. C'est un choix qu'on a fait. Et puis, il y a toute la famille qui me regarde, là.
On les entend pas, mais il y a du monde autour.
Vous pouvez applaudir.
Un petit mot en plus à rajouter par rapport à la maladie, avant qu'on fasse une petite pause.
Je crois qu'on a dit pas mal de
oui,
choses.
Oui, on a dit beaucoup de choses, je trouve, déjà.
Si déjà les auditeurs retiennent tout ça, ce sera déjà bien, je crois.
Pas de rien, ils auront l'occasion de l'entendre également en podcast sur la radio, en cas où. Juste après la pause, on va parler du fameux 7 juillet, ce qui se passe à Fornes.
Votre web radio de proximité du pays du Pont du Gard, RG30.
Retour dans l'émission Rencontre avec. Et là, on va parler du fameux 7 juillet. Le 7 juillet, à Fournes, il y a le 9e festival des coccinelles. Pourquoi coccinelles ?
Les coccinelles représentent l'association.
Laquelle ?
La neurofibromatose.
L'association nationale, oui, devait se chercher un logo un jour, et puis il y en a un qui a dit, mais puisqu'il y a des taches café au lait, on n'a qu'à choisir la coccinelle comme symbole. Parce que ça porte bonheur et que c'est joli, une coccinelle. Donc du coup, ben voilà, c'est devenu le symbole de l'association neurofibromatose. Et comme on est partenaire de l'association, on a repris ce symbole. Même si c'est souvent copié mais jamais égalé. Mais, mais voilà, on a choisi la coccinelle pour ça.
9e festival ?
Ouais.
En 7 ans d'existence ? C'est-à-dire qu'il y en a eu 2 dans la même année ?
Non, ça veut dire qu'il y en a eu 2 sous l'égide de l'association nationale avant. Et qu'on a créé l'association.
La mise en place du festival, ça demande beaucoup de temps.
Ça demande l'énergie. Beaucoup de boulot en amont, mais on est maintenant une bonne petite équipe pour ça et on arrive à se répartir les tâches comme il faut. Donc on y travaille toute l'année parce qu'on essaye de se faire 3-4 réunions dans l'année de préparation. D'abord un débriefing du festival qui est passé et puis après on envisage le suivant. Et puis les pendant 4 jours, parce que le festival c'est une soirée pour les gens, mais nous c'est 4 jours de boulot vraiment intense, parce qu'il faut acheminer tout le matériel, il faut aller faire les courses, il faut et puis le jour J, oui, on attaque. Pour notre part, on attaque à 7h du matin, on finit à 5h le lendemain, mais on est content. Et puis ça dure jusqu'au lundi soir, parce que le dimanche, on fait relâche, le dimanche, on fait la fête entre nous, et puis le lundi, on range, et on nettoie, et voilà.
Et Loïc qui danse.
Et Loïc qui danse. Non, Loïc, il est sur scène pour l'ouverture du festival avec tous ses copains d'infortune.
Oui.
Pourquoi tu chantes ?
Non.
Tu fais de la musique ?
Non.
Il fait de la pâtisserie.
La pâtisserie.
Jamais.
Loïc, il fait des crêpes le jour du festival.
Ouais.
fait des crêpes avec son père. Et pour vous donner un ordre d'idée, le dernier festival, il y a eu 430 crêpes de fête en un peu plus de 2 heures. Donc on sent bon quand on quitte le stand de fabrication de crêpes.
Cette année, tu prévois d'en faire combien en 2 heures? 500, 600?
Ouais.
Ouais. Pour ça, il faut qu'il y ait les gens qui viennent acheter des crêpes. Mais pas trop, parce que cette année, j'y serai aussi, donc pas trop.
La mise en place pour faire venir venir aussi des artistes.
Ouais. Alors, on y est allé un peu au culot, parce que le premier festival qu'on a fait, on s'est dit, on va appeler ça le festival, parce que ça fait bien, ça fait grand. Allez, on dit ça, on appelle ça le festival des coccinelles. Et puis, en fait, on a fait venir les potes. Ceux qui jouent de la musique dans leur garage, comme et puis on a eu 500 personnes. On s'est dit quand même 500 personnes, alors que on n'avait pas une affiche. Et puis pour le deuxième festival, on a dit tiens, on va appeler des gens qu'on aime bien. Donc moi, je regarde sur Facebook j'apprécie notamment Ben Ricourt et donc j'envoie un message à Ben Ricourt et dans la soirée même, il me dit ok pour moi. Bon. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis Ben est devenu un peu un ambassadeur de l'association. Et puis malheureusement, cette année-là, une semaine avant le festival, il a eu un problème de santé, il n'a pas pu venir. Et c'est Gaël Faure qui l'a remplacé au pied levé. Donc c'est de fil en aiguille, comme ça, c'est un nom, deux noms. Et puis l'année d'après, je me dis, puisque ça a marché avec Ben Ricourt, je vais essayer avec Ours, parce que j'aime bien ce que fait Charles Souchon. Et puis pareil, 2 jours après, moi je suis d'accord. Donc on se donne rendez-vous à Paris, parce que j'étais à Paris pour une réunion de l'association, et on se donne rendez-vous à Paris autour d'un café. Et puis ils disent, ah mais nous ça nous emballe, machin, donc on viendra. Et puis j'amènerai aussi mes acolytes, donc le lieutenant Nicholson et Jojoa. Et puis ça part comme ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est le 9e festival. L'année dernière, c'était Ours qui était parrain du festival. Donc, quand ils sont parrains, ils jouent pas forcément leur musique, mais ils assurent la programmation du festival. On leur confie la programmation. Je dois dire que c'est super confort pour moi, parce que j'ai plus d'artistes à chercher. Et j'ai plus à contacter personne, c'est eux qui le font pour nous. Ours nous avait fait la programmation l'année dernière. Et puis, cette année, c'est Ben Ricourt qui s'y est collé. Et ça va nous donner un beau festival.
Véro,
oui.
Loïc, non, toujours pas.
Ça va être un bon festival cette année, je pense.
T'es
comme sûr? Toutes les autres.
Comme les autres années.
Par rapport au festival, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir?
Alors déjà, ce qui est important pour eux, c'est que l'entrée est gratuite.
Donc,
c'est bien précisé, parce que il n'y a pas beaucoup de spectacles gratuits maintenant, et nous on est une petite association, mais on a tenu à ce que ce soit gratuit pour que tout le monde puisse venir, et parce que d'abord tout le monde profite des concerts, mais aussi tout le monde profite de l'information sur la maladie, et c'était notre but. Donc c'est pour ça que je vous parlais de sponsors tout à l'heure, et qu'on a vraiment besoin d'aide pour assurer ces concerts gratuits. On a donc toute une soirée de concerts qui démarre à 19h et qui finit logiquement vers minuit et demi, mais il y a 2 ans on a fini, il était 4h du matin, donc ça, tout dépend de plein de choses. Donc tout ça c'est gratuit, et puis ce qui assure la réussite de la soirée, c'est la buvette et le stand restaurant qu'on a avec d'excellentes galettes et crêpes, puisque notre trésorière a une crêperie bretonne pendant des années, donc ça aide. On fait aussi du snack, hot dog, etc. Et puis on a, pour que ce soit vraiment une soirée familiale, on a un parc de jeux qui est organisé, avec des gonflables, avec des jeux en bois. Je salue au passage le partenaire Aérolite. Oui, on essaye de travailler en local, donc c'était pas eux jusqu'à présent, puis je les ai découverts il y a pas longtemps, donc on les a appelés pour travailler avec eux, parce qu'on préfère faire travailler les gens du coin, quoi. Et ça, le parc de jeux, c'est 5 euros par gamin, ils y vont toute la soirée s'ils veulent, ils y passent 4 heures s'ils veulent, et comme ça c'est sécurisé, parce que c'est des professionnels qui le tiennent, et les parents peuvent profiter des concerts tranquillement.
Ça, les parents ne peuvent pas dire où je vais mettre les petits.
Voilà. Ils sont les bienvenus. Au contraire, parce que ils sont aussi. Moi, je pense que c'est important aussi que dès le plus jeune âge, on soit un peu confronté aussi au monde réel, c'est-à-dire au handicap. On a un partenariat avec le foyer occupationnel de Kerchen à La Palue. Ce sont des personnes adultes handicapées qui fabriquent des objets pour nous toute l'année et qui viennent les vendre le soir du festival au profit de l'association. Et ils sont en fauteuil, ils sont IMC, ils sont parfois lourdement atteints. Et c'est bien que les gamins, ils soient confrontés aussi. Et les adultes, ça leur fait pas de mal non plus, des fois.
Un petit moment de détente et d'information dans la foulée.
Ouais, et puis oui. De citoyenneté.
On en manque beaucoup en ce moment, en plus.
Mais tout ça dans la bonne humeur.
Oui, avec complètement, oui. Après, nous, c'est vrai que derrière, on ne profite pas trop. Enfin, on voit beaucoup les gens. Enfin, moi, je suis de service. Et du coup, c'est vrai qu'on ne profite pas vraiment des concerts, nous, parce que ben, on est derrière et c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment. Mais voilà, c'est très agréable de voir les gens, de ce contact avec les gens qui viennent. C'est très, très sympa.
Mais bien, un concert, ça s'écoute, à la base.
Oui, oui, mais on ne peut pas trop écouter non plus.
On est tellement dans le jus.
Oui.
On est tellement dans le rush et tout ça qu'on n'entend quasiment pas. Moi, pourtant, il y a des chansons que j'adore. Alors, si on se fait un petit plaisir, c'est au moment de la fin du concert. On se permet de fermer les stands et de dire, allez, on va tous profiter des trois dernières chansons et de faire la fête là-bas. Même s'il y a beaucoup d'hommes qui restent, qui commencent à ranger à ce moment-là, et ça, c'est plutôt agréable. mais sinon, et puis ce que Véro ne dit pas non plus, c'est qu'on a le privilège aussi le lendemain d'avoir un petit concert privé juste pour nous à la maison.
Oui, on en profite le lendemain, oui.
Un petit mot en plus à rajouter pour la conclusion.
On parlait de Ours tout à l'heure, donc vous avez diffusé la chanson Théo, et ça, c'est un truc qui nous tient à cœur parce que c'est une chanson qui a été écrite et composée par tous les potes, Ben Ricourt, Ours, Jojoa. Et elle a été composée après, je crois que c'était le premier festival qui a eu lieu à Fournaise, puisque les deux premiers ont eu lieu au Thor, dans le Vaucluse. Après le premier festival qui a eu lieu à Fournaise, c'était au mois de juillet, donc ça a toujours été le premier samedi de juillet. Et au mois de septembre, Théo a été hospitalisé d'urgence et opéré. Et Charles, je suis désolée, je dis Charles parce que pour moi c'est Charles, c'est pas Ours. Charles nous a appelé en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. J'ai dit écoute, fais-nous une chanson, un petit hymne qui nous appartiendrait, et cette chanson est née comme ça. Et Ours et Ben Ricourt vont plus loin parce qu'il y a deux ans, on était donc un lendemain de festival. Je devrais pas dire tout ça, mais tant pis. Je vous mets dans la confidence. On était un lendemain de festival et puis je dis écoute Charles, Ben, dans deux ans il y a un congrès mondial médical qui va rassembler 800 chercheurs à Paris, organisé notamment par l'association. Il faudrait qu'on fasse parler de l'association, quoi. On se ferait pas un gros concert à Paris. Ils ont dit oui tout de suite. Et ça leur demande quand même pas mal de boulot parce que c'est eux qui sont chargés de la programmation de ce concert. Et ce concert, il aura lieu le 3 novembre au Casino de Paris. Les places sont en vente sur le site de l'association et du Casino de Paris. L'intégralité des bénéfices de ce concert vont aller à la fondation CAPNF qui finance la recherche. Et on a le plaisir déjà de savoir qu'Alain Souchon sera présent, que Aldebert sera présent, les Brigitte seront présentes. Et j'en ai d'autres, mais j'ai pas encore le droit de vous le dire, mais vous le saurez en suivant notre page Facebook. Et puis une dernière petite chose, on a David Bascugnana qui est photographe à Beaucaire, qui a pris en photo, qui a fait des super photos de nos guerriers, hein, Loïc.
Oui.
Il a dansé.
Ouais. Non. Non, il est parti au Puy du Fou avec eux et c'est un portraitiste vraiment de talent. Il est à Beaucaire, au Studio B, rue Nationale à Beaucaire, en passant une petite pub. Et puis on est en train de chercher du soutien pour exposer, faire vivre cette expo. Alors on aimerait, on est en train de voir pour qu'elle prenne refuge au Pont du Gard ou dans des lieux comme ça où il y a beaucoup de visites pour pouvoir vraiment parler de la maladie et pouvoir montrer que nos malades, bah, c'est des belles personnes et c'est des beaux guerriers. Même s'ils ne parlent pas beaucoup. Mais je parle à sa place.
Loïc, un petit mot pour finir, pour conclure l'émission, non?
Non, c'est bon.
Toujours pas? Non, c'est bon, ok. Et Véro?
Eh bien, merci de nous avoir fait partager ce moment, de parler de la maladie, de parler du coup de l'association, de parler de tout ça. Merci beaucoup.
Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli chez vous déjà, avec le soleil en plus, pour une fois qu'il y a le soleil, ça fait longtemps, un petit brin de vent, et on a le public derrière, un petit mot le public là.
Venez nombreux, hein, le 7 juillet, à Fournaise.
Alors ce sera le 7 juillet, et on viendra faire un petit tour également, prendre des petites photos pour suivre le festival. RG 30.